J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
En ouverture de la série Culture Science, tous les jours à 14h sur France Culture, toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette semaine, sur France Culture, tout le monde passe le bac. Que ce soit le bac philo avec Adèle Van Rett, que ce soit le bac histoire avec Emmanuel Laurentin, et le bac science, bien sûr, pour nous, et nous ouvrons cette semaine studieuse, préparatoire, avec les mathématiques. C'est-à-dire que nous reproduisons à nouveau, cette fois, un nouvel exemple, un nouvel item de notre expérience, ou plutôt de notre émission expérimentale de l'année dernière, avec les mêmes partenaires que nous avions à ce même micro. Étienne Gis, professeur de mathématiques à l'École normale à Lyon, et qui est aussi à l'Académie des sciences. Et puis François Sauvageau, qui fit des maths et qui est maintenant professeur. On pourrait lui demander pourquoi il a arrêté les maths. D'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion aussi. On peut aller dans ces détails biographiques. Et donc, autour d'un problème qui va être de nature tout à fait différente que celui de l'année dernière, puisque celui de l'année dernière portait sur les probabilités. Cette fois, on va tomber sur des drôles de bizarreries, vous allez voir tout de suite, qui inquiètent souvent les gens. Et en tout cas, nous allons quand même respecter, même cette semaine du baccalauréat et de ses préparations, notre habitude, notre tradition, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens certains reptiles. Et plus précisément, les reptiles à écailles, dits les lépidosauriens, comme le gecko, tiens, le gecko toquet, dont le nom provient du malais djekok. Je ne sais pas si la prononciation du malais est exacte, et qui est en tout cas une onomatopée correspondant au cri d'un gecko d'Indonésie. Vivre vite et mourir jeune pourrait être un adage qui s'applique à ces reptiles à écailles. C'est du moins le résultat d'une étude menée sur la longévité de ces animaux. Selon les scientifiques, un reptile à écailles est susceptible de mourir jeune s'il atteint la maturité sexuelle plus tôt, et s'il se reproduit plus souvent que ses congénères. En somme, plus un reptile a de rapports sexuels, plus sa vie est courte. Plus un reptile a de rapports sexuels, et plus sa vie est courte. Ce qui est une autre façon de dire l'adage précédent. Bref, pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs se sont intéressés à pas moins de 1000 espèces de reptiles à écailles, dont 672 lézards et 336 serpents. Pour chaque espèce, ils ont compilé les informations sur la taille et la température du corps, le mode de reproduction et l'âge de la première reproduction. La taille des couvées, la fréquence de ponte, l'alimentation et le temps d'activité ont eux aussi été pris en compte. En fait, les espèces qui vivent le plus longtemps sont celles qui ont une reproduction peu fréquente et comme retardée, ainsi qu'une température du corps moins élevée. Ces espèces sont également moins de petits, ont des couvées moins importantes, mais curieusement, des nouveau-nés de plus grande taille. À l'opposé, les reptiles qui se reproduisent fréquemment et qui ont des couvées avec de nombreux petits ont une vie plus courte. Au cours de leurs recherches, les scientifiques ont aussi remarqué que les reptiles herbivores ou omnivores vivent plus longtemps que leurs congénères strictement carnivores de taille équivalente. Ces derniers, de par leur régime alimentaire, grandissent plus vite et ont des rapports sexuels plus tôt et plus souvent. Tandis que les reptiles herbivores, qui mangent moins de protéines et d'aliments riches en nutriments, atteignent l'âge de la maturité plus tard et vivent donc plus longtemps. Pour confirmer ces résultats, les scientifiques proposent que dans le cadre de futures études, deux groupes de la même espèce reçoivent une nourriture différente, le but étant de voir comment cela affecte le temps de croissance et la maturité de chaque animal. En définitive, les résultats montrent qu'il y a bien un lien, une relation, entre l'âge de la première reproduction, le taux de reproduction et l'espérance de vie. Cette première étude comparative à grande échelle de la longévité chez les animaux à sang froid permet donc d'ouvrir de nombreuses pistes de réflexion pour les études à venir. Et retenons à nouveau cet adage, les reptiles se reproduisant fréquemment ont la vie la plus courte. Bonjour Étienne Gis.
Bonjour.
Bonjour François Sauvageau.
Bonjour.
Il n'y aurait pas quelques allométries là-dessous, non ? Allométrie qui est relation, mais pas démonstration, non ? Ah, sur la lenteur et la vieillesse de ceux qui font le moins d'actes de reproduction chez les reptiles à écailles. Pas confondre. Bon, nous allons être face maintenant à un problème qui aurait, semble-t-il, eu quelques écailles aussi auprès des élèves, de ceux qui ont dû le traiter. Mais on va quand même commencer par un moment d'histoire, un très beau moment d'ailleurs, puisque d'une certaine manière, moi, tous ces moments-là, je les trouve, en tout cas moi, quand j'arrive à les comprendre, et ou en tout cas à discerner à peu près ce qu'ils contiennent d'intelligibilité, une espèce de malice intellectuelle, de rationalité qui se développe de façon inédite. On va parler et on va faire l'histoire, si vous êtes d'accord, Étienne Gis, des nombres complexes qui ne peuvent s'imaginer sans les nombres imaginaires. Notez I en ital, dites-vous, mais dans l'exercice que nous avons vu, ils sont au droit. Bref, ça commence à la Renaissance et ça commence par une bagarre de mathématiciens dans un sacré malin qui s'appelle Cardan.
Oui, en fait, ça commence bien avant.
Oui.
Il faut savoir que les mathématiciens, depuis toujours, calculent avec des nombres. Alors au début, ils calculaient avec les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, etc. Et ils se sont mis à les ajouter, à les multiplier, et donc à les diviser et à les soustraire. Et dès qu'on divise des nombres entiers, si on divise 1 par 3, on se rend compte que ça ne tombe pas juste, et on est amené à inventer les nombres rationnels, les fractions. Puis une fois qu'on a les fractions, il faut apprendre à les ajouter, à les multiplier. Et on apprend tout ça à l'école en principe. Et puis, on est tombé ensuite sur d'autres problèmes très sérieux. Les Grecs, par exemple, se sont posé la question de la nature de la racine carrée.
Oui.
Par exemple, le carré de 2, c'est 4, le carré de 3, c'est 9. Mais qu'est-ce que le carré de 5 ou la racine carrée de 5 ou la racine carrée de 2 ? Est-ce qu'il existe une fraction dont le carré soit égal à 2 ? Et ça a été, une stupéfaction dans le monde ancien de découvrir que certaines quantités ne sont pas des nombres rationnels. Et il a fallu du courage, du culot, pour accepter l'idée de faire entrer dans le bercail des nombres que nous utilisons, des nombres irrationnels. Déjà, le nom irrationnel fait peur.
Hein. Oui.
Donc, racine de 2, par exemple, a été acceptée comme un nombre, comme tous les autres nombres. Et puis pendant très longtemps, on travaillait donc avec les nombres que nous appelons aujourd'hui réels, qui contiennent les entiers, les fractions, mais aussi des nombres irrationnels, comme par exemple racine de 2 ou comme le fameux nombre pi, par exemple.
Oui, bien sûr.
Alors tout ça allait plutôt bien jusqu'au début du XVIe siècle, où on a commencé à se poser des questions sur la racine carrée des nombres négatifs, qui est une chose ahurissante, puisque vous vous souvenez peut-être que plus par plus égale plus, moins par moins égale plus. Donc le carré d'un nombre, quel qu'il soit, est toujours positif. Et donc aucun nombre n'a comme carré moins 1. Et il a fallu du courage. Il a fallu
Vous dites du culot.
Il a fallu du culot pour que quelques mathématiciens au début du XVIe aient le courage de créer de nouveaux nombres que nous appelons aujourd'hui complexes, et qui autorise l'usage de racines carrées de nombres négatifs. Alors, j'aimerais bien avoir plus de temps pour en parler de cette histoire parce qu'elle est vraiment fascinante. Ça se passe donc au début 16e, en Italie. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des naïfs, il y a des gens qui vont voler les secrets des autres.
Il y a des gros malins comme Cardan.
Moi, je me disais que ça serait bien de faire une série américaine comme Borgia, hein, sur l'origine des nombres complexes, puisqu'il y a eu beaucoup de haine. Il y a eu beaucoup de sales coups qui se sont faits en douce. Alors les noms, je vais en oublier. Il y a Del Ferro, il y a
Tartaglia.
Tartaglia, qui veut dire le beg en italien. Il y a Ferrari, il y a Bombelli, et puis Cardan. Cardan, dont l'histoire a retenu le nom. Hein, tous nos étudiants connaissent les formules de Cardan. Mais c'est le plus méchant. C'est lui qui a tout volé aux autres. On ne connaît pas grand-chose de ce qui s'est passé en vérité, mais une chose dont on est sûr, c'est que Cardan a tout piqué, quoi. Voilà.
Alors, a fait des trucs, on va le dire quand même, il a fait des choses étranges, parce que ces gens cherchaient quand même des places. Hein. Bien évidemment, il suffit. Par exemple, il n'était pas mathématicien, sauf qu'il a fait aussi des maths, mais on pense à Galilée, qui, comme les grands peintres d'ailleurs, on peut penser à Vinci, d'un seul coup trahissant Florence pour aller travailler chez les Sforzini à Milan. Bref, lui, Cardan, il s'est permis de faire l'astrologie, le thème astrologique du Christ, ça tombait bien.
Mais ça correspondait parfaitement à l'époque. Hein. Kepler le faisait aussi, oui. Et d'autres le faisaient. Non, je vous dis, c'est une période fascinante. En plus, c'est en Italie.
Une série
télévisée, ça serait bien quand même.
Mais oui, parce que voilà. Vous m'avez raconté quand même, il faut le dire, c'est quand même un peu le plaisir. Les gens réunis dans certainement une grande salle, peut-être une église.
Une église, oui,
avec des matheux de deux camps, se jetant des équations du troisième degré.
Exactement, chacun recevait 30 équations du troisième degré, et c'était à celui qui trouverait les solutions.
Une semaine après,
ou 15 jours après, oui. Et puis après, il y avait un juge qui décidait qui avait gagné et a empoché de l'argent. Hein. Mais on s'éloigne.
Non, mais ça fait rien, on peut sur un point. Voilà. Deuxième degré, ça marche. Troisième degré, ça marche.
Quatrième degré aussi.
Ça marche. Quatrième degré, il va falloir attendre le 19e voilà. Pour arriver à l'ordre cinquième.
Alors, bon. Toujours est-il que vers la fin de cette épopée, vers le milieu du 16e siècle, on est arrivé à peu près à comprendre qu'il fallait ajouter aux nombres que les mathématiciens utilisent des nouveaux nombres qu'on appelle aujourd'hui complexes, qui ont une partie réelle et une partie imaginaire. On les écrit sous la forme X plus IY. X est un nombre réel, Y est un nombre réel et I est un nombre... Qui sait ce qu'il est ? La seule chose qu'on sait sur lui, c'est que son carré est égal à moins 1.
Oui.
Et puis après, on travaille formellement, on fait des calculs, comme avec des nombres normaux. Et je vous garantis qu'après un certain temps, quand on a bien manié ces nombres qu'on appelle complexes, ils ne sont pas si complexes que ça, ils deviennent très naturels. Et les mathématiciens d'aujourd'hui utilisent ces nombres complexes sans même y penser. Et souvent même, les nombres réels leur semblent bien trop complexes. Et ce sont les nombres complexes qui sont les plus simples.
Oui, c'est étonnant.
C'est étonnant, mais c'est comme ça.
Racine de moins 1 au carré, moins 1.
Racine de carré.
Égale moins 1.
Exactement. Racine de moins 1 au carré égale moins 1.
Bon.
Donc voilà. Donc,
bizarre.
On se retrouve dans une situation, disons, que ça a pris du temps. Hein. Après, il a fallu la compréhension, la digestion par plein de gens. Par exemple, j'ai trouvé une citation
de Leibniz. Il y a que des génies après. Euller, tout le monde a travaillé
dessus. Je vais vous lire une petite citation de Leibniz,
oui.
Début 18e siècle,
Gottlob.
Qui montre à quel point c'était compliqué.
C'est son prénom.
Voici ce qu'il écrit. La nature, mère des éternelles vérités, ou plutôt l'esprit divin, est en effet trop jaloux de sa merveilleuse diversité pour permettre que toute chose soit condensée en un seul genre. C'est pourquoi il a trouvé un détour subtil et remarquable dans ce prodige de l'analyse, ce monstre du monde des idées, cette sorte d'amphibie entre l'être et le non-être que nous appelons racine imaginaire. Donc voilà, il a fallu du temps pour que les choses se comprennent. Et puis finalement, aujourd'hui, on apprend ça en terminale. Et en principe, nos élèves devraient comprendre ça de manière non complexe.
France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges.
Suite donc de cet exercice de mathématiques pour cette émission d'aujourd'hui de Continent Science, toujours en compagnie d'Étienne Gis et de François Sauvageau. Alors moi, citation pour citation, à la fin des désarrois de l'élève Torres, donc de Robert Mouzil, qui était ingénieur, il y a cette chose. Bon, il n'y a pas plus d'explication, mais elle est assez étonnante. Les regards des uns et des autres se croisèrent, puis revinrent tous à Torres. Le mathématicien tout sauta et dit « Je dois présenter ici pour aider à l'intelligence de ces obscurs propos que l'élève Torres est venu me voir un jour pour me demander une explication de certaines notions mathématiques fondamentales, celles d'imaginaire en particulier, notions auxquelles peut achoper en effet un esprit encore mal dégrossi. » On pourrait le mettre aussi en annexe ou en incipit de notre émission d'aujourd'hui, parce que ça...
Ça serait peut-être l'occasion de discuter du rôle du choix des mots en mathématiques. Oui. Certains mots sont désastreux, comme par exemple le mot imaginaire ou le mot complexe sont très frustrants, puisqu'ils laissent entendre que ces nombres complexes ne sont pas réels et qu'ils sont compliqués.
Oui.
Or, ils sont, je vous le dis, ils sont tout aussi réels que les nombres réels et ils ne sont pas plus compliqués que les nombres réels.
Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est, d'ailleurs, ça sonne aussi avec le fait de désigner dans le célèbre dialogue de Platon, quand le petit esclave de Ménon rejoue la mesure de la diagonale hein, du rectangle et qui se dit « ça, alors, c'est vraiment irrationnel, on tombe jamais pile, ça va pas, c'est pas commensurable, c'est un non-commensurable avec les côtés, qu'est-ce que c'est que ce bazar irrationnel ?» Et là, imaginaire.
Les mots sont impressionnants, il y a le mot imaginaire, et pendant très longtemps, ces nombres, on les appelait les nombres impossibles.
Oui.
Donc, il y a eu une frustration très longtemps à propos de ces nombres. Mais tout va bien maintenant, ils sont très simples.
Oui, mais là encore, et puis après on va rentrer dans le sujet, continuons quand même parce que c'est intéressant, vous allez pouvoir donner immédiatement votre avis sur la chose, hein, François Sauvageau. Nous n'allons pas faire un dialogue simplement avec Étienne Gis, mais moi je trouve qu'au contraire, il y a une sorte de malice, je prends ce mot, c'est-à-dire que rationnellement au premier abord ça tient pas debout, racine de moins 1, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et puis en même temps vous avez fait un très joli un quart d'heure ou 5 minutes Ernest, je sais plus le temps que ça dure, sur les géométries non euclidiennes. C'est pareil, il y a un coup là qui est une malice, enfin on fait quelque chose d'interdit et c'est productif. Voilà. C'est et en tout cas pour le néophyte total que je suis, l'étranger aux mathématiques, je trouve ça extraordinaire. On peut pas imaginer quelque chose d'équivalent en physique, ou alors dans son formalisme mathématique. C'est d'un autre ordre. Non, non, c'est contre-intuitif, tout ce qu'on veut dans la mécanique quantique. Mais
même les équations de Maxwell, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Oui.
C'est quand même assez extraordinaire.
Oui, oui.
Les physiciens aussi sont capables de création, vous savez.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Et même ceux de mécanique quantique, puisque de toute façon, il a fallu faire des algèbres un peu bizarres. Hein, bon, enfin bref, alors.
En tout cas, c'est un miracle que ces nombres complexes qui sont arrivés dans une situation un peu complexe, un peu tourmentés au début du XVIe siècle, oui. Aujourd'hui, ils sont devenus vraiment omniprésents dans toute la science. Vous parliez par exemple de mécanique quantique.
Oui.
La mécanique quantique n'existerait pas sans le formalisme des nombres complexes.
Oui.
C'est pas la première fois que ça arrive en maths, hein, des découvertes ou des inventions dans un certain contexte très particulier qui s'avèrent d'une fécondité extraordinaire et qui vont se développer dans les siècles qui suivent. Et les nombres complexes font partie des exemples.
Oui.
De ces belles idées qui fertilisent toutes les mathématiques et toute la science.
On pourrait mettre le vecteur d'ailleurs, ça marche.
J'aimerais donner une image peut-être à ce niveau-là.
François Sauvageau.
C'est celle de la permanence de l'éphémère. Quand on regarde un nuage, on voit une forme, on imagine quelque chose, et puis quand le nuage se déforme, on continue à voir cette forme. Je pense que quand on a inventé les nombres complexes, on a vu quelque chose, on a entrevu quelque chose, et probablement on ne s'attendait pas à tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qu'on continuera à voir. Et on s'est rendu compte qu'en fait on avait travaillé avec depuis très longtemps, puisqu'en fait il s'agit juste des points du plan, tout simplement. Un nombre complexe, c'est rien d'autre qu'un point du plan. Donc des dessins, on en a fait depuis longtemps, sur des abacs qu'on a tracés sur le sable, Ça fait plusieurs millénaires qu'on fait ça. Et qu'est-ce que c'est que racine de moins 1? C'est tout simplement le quart de tour. Le quart de tour, tout le monde sait ce que c'est qu'un quart de tour. Donc c'est quelque chose qu'on a manipulé depuis une éternité et qu'on a retrouvé finalement dans les travaux anciens, a posteriori, en revoyant cette espèce d'éphémère qu'on avait entrevu de façon algébrique. Et c'est pour ça que j'aime bien cette image de se dire que finalement en mathématiques, on crée des choses et une fois qu'on les a créées, elles deviennent tellement naturelles qu'on se rend compte que tout ce qu'on a fait avant en relevait.
Alors, cet exercice dit numéro 3, commun à tous les candidats, qui commence par une équation du...
Quatrième degré.
Hein,
de quoi faire peur.
C'est mal parti, puis ça commence par z puissance 4. Hein. Z étant un nombre complexe.
Voilà.
Hein. Un inconnu.
Voilà, oui.
Complexe.
Un inconnu complexe, oui. Il a fait discussion à tel point que... avant, vous disiez au préalable de cette émission, François Sauvageau, que devant cet exercice, les candidats auraient été voir leur prof en disant « c'est des salauds, ils ont donné un truc trop dur, hors cours, on n'a jamais appris ça, ça commence par quoi ?» Et puis là, bah, y a Internet, et ça a fait du ramdam.
Oui, tout à fait, il y a eu plusieurs... disons pétition, mais pas seulement, il y a eu pas mal de buzz par d'autres réseaux sociaux, mais il y a eu déjà au moins deux pétitions, une assez drôle en fait, qui peut faire sourire de se dire qu'on puisse en arriver là à écrire des choses du genre « arrêtons le carnage » sur ce genre de questions. Et une autre pétition, beaucoup plus sérieuse, juridiquement d'ailleurs, qui se tenait bien, avec des arguments tout à fait corrects, et qui dénonçait en fait un certain nombre d'inadéquations et de difficultés du bac, et en particulier sur cet exercice 3, où il y a une question de, on va dire une question de cours, qui est objectivement à la limite de ce qui était exigible. Et en tout cas, à la lumière de toutes ces pétitions, il est assez clair que le ressenti général des étudiants, des élèves qui ont passé le bac cette année-là, donc l'an dernier, ils ont ressenti une rupture entre ce qu'ils ont préparé pendant l'année avec leur professeur, d'une part, et avec les annales de bac qu'il peut y avoir ces années d'avant. Maintenant, sans vouloir disserter, savoir si c'est une difficulté absolue ou pas, puisque on peut tout à fait dire que le bac était accessible d'un point de vue absolu, il est clair que cette rupture a provoqué un certain émoi et que bon, on peut comprendre qu'un certain nombre d'élèves se soient sentis mal à l'aise ou peut-être même trahis par ce sujet. D'ailleurs, force est de constater, hein, il a été noté sur 24, hein, ce bac.
Oui, et on peut dire que dans ce cas-là, ils se sont plaints, par exemple, en disant c'est hors cours. On ne nous l'a pas appris.
Oui, c'est ça. Hein,
oui, alors que là, ça s'appelle restitution organisée de connaissances. Donc, c'est une restitution organisée de connaissances qu'on ne leur a pas faite.
Voilà, on en reparlera peut-être au moment où on traitera cette question. Mais effectivement, d'une part, il y a une partie qui n'est pas explicitement écrite dans ce qui est exigible. Et d'autre part, il y a une question qui est relativement difficile à mener, même si elle peut sembler relever de ce qui est vraiment dans le cours. Donc, c'était une difficulté.
François Sauvageau, avant de donner donc la parole à Étienne Gis qui va nous lire l'introduction de l'exercice numéro 3 qui fut chahuté. Petite question d'ordre général que je me suis posée en écoutant vos conversations, en préparant donc ce rendez-vous. C'est difficile, vous êtes enseignant à des taupins, enfin des gens qui préparent les grandes écoles, ainsi de suite. Est-ce que c'est un exercice difficile pour un professeur de mathématiques que de faire un exercice, que d'écrire un exercice?
Que d'écrire un exercice, bien. C'est compliqué, d'abord parce que les processus de création d'exercices, en fait, ne sont pas des exercices solitaires, donc il y a beaucoup de relectures et d'interactions, ce qui fait qu'on perd parfois, on peut gagner évidemment, on espère ça, mais on perd parfois le fil, l'intelligibilité du sujet, et c'est un peu le cas d'un certain nombre d'exercices de ce sujet d'ailleurs, où les questions sont un peu posées n'importe comment, parce qu'on perd le sens de l'exercice pour plutôt se raccrocher à « est-ce que j'ai bien testé tel ou tel point de cours ?» parce que le but du bac est aussi de vérifier que tel et tel point de cours sont bien maîtrisés par les élèves. Donc oui, c'est un exercice difficile, parce que un bon exercice qui est capable de marier à la fois le contrôle de connaissances et le contrôle du sens, eh bien c'est difficile à produire. Donc effectivement, ça peut poser un certain nombre de problèmes, sachant qu'il y a des exigences en plus, de pas faire un bac trop dur, de pas faire un bac trop facile, etc., etc. Et ça, en fait, la population étant très très hétérogène, oui, c'est difficile. Moi, j'ai fait quelques sujets de concours et je dois avouer que je suis pas nécessairement content du résultat.
Oui. En tout cas, moi, je peux dire que là, je ne sais pas pourquoi, si vous avez le souvenir de l'exercice de l'année dernière, mais que ça mobilise beaucoup plus de mathématiques que l'année dernière.
Certainement.
Hein, oui.
Beaucoup de mathématiques.
Complètement. Hein,
et je trouve ça extrêmement dense et il y a un large éventail quand même. Il y a beaucoup de choses mobilisées.
Et je dirais même de philosophie, en fait, de compréhension de.
Oui,
de sens.
On peut le voir même pour la résolution d'équations du deuxième degré, on y passera, mais bon, enfin bref, il y a beaucoup de maths là-dedans. Hein, et donc, je suppose que pour finir, et je passe la parole à Étienne Chiss tout de suite. Quand vous êtes en train, François Sauvageau, de rédiger un article, vous essayez qu'il y ait une sorte de cohérence, en tout cas, qu'il y ait donc une espèce de, je ne sais pas quel mot utiliser, mais de linéarité, ou en tout cas de vecteur qui guide les différentes questions.
Oui.
C'est ça?
Oui.
D'accord. Alors. Lecture.
Alors je fais la lecture.
Monsieur le professeur Étienne Gilles.
Il s'agit donc de l'exercice 3.
Oui.
Donc je vous rappelle qu'une épreuve de mathématiques en terminale S au baccalauréat dure 4 heures. Mm-hmm. Il y a 4 exercices. Donc en gros, il s'agit d'y consacrer une heure. L'exercice 3 compte pour 5 points. Il est commun à tous les candidats. Alors je commence la lecture. On désigne par E l'équation Z puissance 4 plus 4z carré plus 16 égale 0 d'inconnu complexe z. Alors, premier petit commentaire, c'est quand même pas sympa de commencer tout de go par une équation du quatrième degré.
Oui.
C'est de quoi coincer un élève qui, de toute façon, dans toute sa carrière scolaire, n'a jamais vu que des équations du premier ou du second degré. S'il est un peu faible ou s'il n'a pas trop de motivation, oulololo, quatrième degré, ça c'est pas pour moi, ça me paraît à peu près clair, quoi. D'autant plus que nous allons le voir, l'équation E de degré 4, eh bien, finalement, n'apparaîtra qu'à la fin et c'est juste une cerise sur le gâteau. Ça aurait été bien mieux qu'on n'en parle pas du tout, quoi.
Oui.
Donc il y a maintenant 4 questions. Première question, résoudre dans C. C, c'est la notation pour les nombres complexes.
Oui, l'ensemble des nombres complexes.
L'équation du second degré. Z carré plus 4Z plus 16 égale 0. François va la résoudre tout de suite, mais je peux toujours déjà dire que quand même c'est une équation du second degré. En principe, un élève de terminale fait ça de manière automatique si tout va bien.
Et quelles sont les solutions de cette équation, donc ?
Écrire les solutions de cette équation sous une forme exponentielle, c'est un peu plus compliqué, mais ça me semble complètement dans le programme. Deuxième question, on désigne par petite a le nombre complexe dont le module est égal à 2 et dont un argument est égal à pi sur 3. Calculer a carré sous forme algébrique, en déduire les solutions dans C de l'équation z carré égale moins 2 plus 2i racine de 3. On écrira les solutions sous forme algébrique. Alors bien entendu, je pense que les élèves sont habitués à ça. Il est évident que dans la question 2, on donne la réponse à la question 1. Donc les élèves savent qu'en regardant un petit peu correctement la suite des questions qu'on leur pose, en fait, on leur donne des indications pour les solutions.
Oui.
Alors maintenant, François va résoudre. On va voir s'il est capable de résoudre une équation du second degré.
Professeur François.
Professeur François, au travail.
Alors, je voudrais dire déjà que le fait que Étienne ait lu le sujet est quelque chose qui est un plus par rapport à un élève qui aurait à lire le sujet lui-même, puisque en le lisant, il lui donne un sens. Hein. Un petit détail peut-être qui n'a peut-être pas apparu à la lecture, c'est que le petit z de l'équation grand E est un z minuscule, alors que la question grand 1, c'est un grand z.
Excuse-moi, François.
Donc, parce qu'en fait, il va s'avérer que grand z n'est rien d'autre, enfin, c'est plutôt petit z qui n'est rien d'autre que grand z au carré. Alors, résoudre dans C l'équation, donc z au carré plus 4z plus 16 égale 0. Il y a plusieurs façons de le faire, bien entendu. Il y a des formes plus ou moins automatisées. Ça fait tout à fait partie du programme et c'est un attendu complet. J'aime bien le dire en disant que ce trinôme de second degré de la variable réelle se comporte comme une parabole, donc avec un point qui est le plus bas possible. Et c'est en détectant ce point où la parabole est au plus bas qu'on arrive à factoriser l'équation, qu'on va donc écrire sous la forme z plus 2 au carré plus 12 égale 0. On va se retrouver donc avec z plus 2 au carré égale moins 12. Et donc on va se retrouver avec ce fameux carré qui est un nombre négatif, à savoir moins 12. C'est là qu'apparaît le nombre i. On en déduit par extraction de racine carrée que z est égal à moins 2 plus ou moins i fois racine de 12.
François, est-ce que tu crois que le correcteur de cet exercice espère la solution que tu viens de donner ou il attend la solution
parfaite? Oh, je pense que il va donner directement la solution sous forme apprise par cœur avec un discriminant qui s'appelle delta en général, sans demander autre chose que de vérifier que delta est soit positif soit négatif pour attester du fait que les racines sont réelles ou imaginaires. Donc c'est une formule qu'on apprend par cœur, hein, bien entendu. Moi je trouve qu'on perd le sens en l'apprenant trop par cœur et qu'on oublie un petit peu que la beauté de ces objets vit plutôt dans en termes de fonction, en termes d'études de variations de cette quantité qui est z au carré plus 4z plus 16. Et non pas juste résoudre l'équation en tant que telle, puisque ce qui m'intéresse, pourquoi je m'intéresse au zéro de cette équation, c'est parce que je vais pouvoir factoriser l'expression. Factoriser, c'est-à-dire l'écrire comme produit de deux termes. Produit de deux termes très simple, et qui va me permettre de connaître le signe de ce genre d'expression, savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Ça résout plein de problèmes pratiques, comme des problèmes de hauteur, des problèmes de seuil, des problèmes de savoir quand est-ce qu'on dépasse une certaine quantité. Et bien entendu, c'est beaucoup plus facile à comprendre quand on a une forme factorisée, de savoir quand est-ce que c'est positif ou négatif. Étienne l'a dit tout à l'heure, plus par plus, ça fait plus, et bien plus par moins, ça fait moins. Ça, c'est très simple. Par contre, une expression où on a une somme de choses, savoir quand est-ce que c'est positif, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui.
Donc c'est pour ça que j'aime bien passer par cette mise sous forme canonique. Mais cela dit, ce n'est pas fini puisqu'on demande de la mettre sous forme exponentielle. En forme exponentielle, c'est-à-dire qu'on va interpréter le nombre complexe comme étant un point du plan qui va avoir d'une part une distance à l'origine, c'est-à-dire ce qu'on va appeler son module, et puis un argument, c'est-à-dire l'angle que fait le point du plan avec l'axe des abscisses. Le module se calcule assez facilement. On peut même le détecter si on reconnaît des nombres complexes dont on a l'habitude, parce que, bien entendu, comme l'a dit Étienne, la réponse est dans la question suivante d'une part, et puis il y a très peu de nombres dont on sait vraiment très facilement mettre sous forme exponentielle, parce que c'est compliqué. En fait, quand on vous dit cosinus égale 0,703, la réponse en général c'est arc cosinus de 0,703, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Donc s'il y a une réponse intelligible, c'est qu'en fait elle fait partie des attendus, des quelques angles en fait dont on connaît les expressions. Donc ici on va reconnaître, je passe rapidement, la forme, donc 4 fois, ça c'est le module 4, et l'argument ça sera 2 pi sur 3 ou moins 2 pi sur 3, autrement dit la forme exponentielle c'est 4 fois exponentielle de plus i fois 2 pi sur 3, ou alors 4 fois exponentielle de moins i fois 2 pi sur 3. Donc ça, c'est pour le problème 1, donc entièrement dans les clous en termes de programme, et qui teste effectivement pas mal de points du programme. Pour le deuxième question, il s'agit d'élever au carré un nombre complexe qui est déjà sous forme trigonométrique. Donc là, il n'y a pas de forme exponentielle, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut vérifier qu'on obtient un cosinus et un sinus, et on retombe miraculeusement, évidemment, sur l'expression de tout à l'heure, à savoir moins 2 plus 2i fois racine de 3. Et c'est là qu'il y a un petit point déjà qui achoppe par rapport au programme. On vient de calculer a au carré. On demande de trouver les solutions de z au carré égale justement ce qu'on vient de trouver pour a au carré. Hein. On a résoudre une équation qui s'appelle z au carré égale moins 2 plus 2i racine de 3. Il se trouve que le a au carré qu'on vient de calculer, c'est justement moins 2 plus 2i racine 3, la question c'est que vos z. Donc on a z au carré égale a au carré. Alors vous conviendrez facilement que z égale a est une solution, puisque z au carré égale a au carré, et vérifiez évidemment quand z vaut a. Quand z vaut moins a, bien entendu, c'est tout à fait élémentaire de voir que le carré de l'opposé, c'est la même chose que le carré du nombre. Mais il est inaccessible a priori à un élève de terminale de savoir que puisqu'on a deux solutions de cette équation de second degré en complexe, eh bien on les a toutes. Ça ne fait pas partie des attendus du programme, puisqu'on est censé résoudre que des équations à coefficient réel, et c'est donc pas comme ça qu'il faut procéder. Alors la solution que je propose passe par l'identité remarquable, qui est quelque chose qu'on a appris au collège. Z au carré égale a au carré, je vais l'écrire sous la forme z au carré moins a au carré égale 0, que je vais donc écrire z au carré moins a au carré, c'est une identité remarquable, l'identité de Bernoulli. Je vais l'écrire z moins a multiplié par z plus a, et cette fois-ci z moins a multiplié par z plus a égale 0, ça veut dire z moins a égale 0 ou z plus a égale 0, c'est-à-dire z égale a ou z égale moins a, et on retombe donc sur les solutions auxquelles on s'attendait.
Juste une petite remarque, c'est que les élèves ne savent pas ce que François et moi nous savons très bien, qu'une équation du premier degré a une solution, une équation du second degré a deux solutions, du troisième degré a trois solutions, et du énième degré a n solutions. Donc dès le départ, nous savions qu'une équation du quatrième degré il faut s'attendre à en trouver quatre
et solutions. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et bon. Ce fait, qui est évident pour nous, n'apparaît qu'à la fin de la quatrième question, et qu'on demande à l'élève de l'admettre. Donc c'est évident que l'élève est en difficulté, puisqu'on ne lui a pas dit le nombre de solutions qu'il est en droit d'attendre.
Oui, pour l'équation au deuxième degré, c'est même plus, c'est relativement précoce. Ça, quand
l'équation du second degré date
avec
les Babyloniens.
Non, dans l'enseignement scolaire.
Dans l'enseignement scolaire. On en discutait tout à l'heure et il semblerait que François et moi avons appris ça quand nous étions en troisième.
Oui.
Et il semblerait qu'aujourd'hui ce soit en seconde.
Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges.
Y'all listen, I'm gonna keep saying. I'm gonna keep singing,
singing.
I'm gonna keep singing, yeah.
Singing.
Said I'm gonna keep singing,
singing.
I'm gonna keep singing, y'all. Uh-huh. Well, I'm gonna keep singing while I'm waiting on my chance to come. You know, it's just like I was talking to my girlfriend this morning. I say, honey, let me tell you a little something. Hallelujah. Yeah.
Hallelujah.
Can I just
suck it to you?
Hallelujah, girl.
Hallelujah.
You know I wanna. You know I wanna
suck it to you.
Hallelujah, baby. Uh-huh. Look at him. And she said, what the hell do you mean by that? And I said, hold on a minute, babe. I'm going to try to explain it to you the best way I can. Look at him. Can me and you
do it?
Tell me, woman, can we
do it?
The only reason I ask you that is because I know bees.
Do it.
I just read in the paper yesterday that even fleas
do it.
So why can't me and you do it, baby? Listen to me. Let's find it out, girl. I fooled you, didn't I? While I'm waiting on my change to come.
Eh bien voilà, suite du programme, exactement comme le dit Ray Charles aux césures, hein, il dit explain me et listen me. Donc nous sommes dans le cadre donc de cette préparation au bac, toujours en compagnie de d'Étienne Gis et de François Sauvageau. Listen to me et explain me. Alors on va se détendre un instant pour faire un petit commentaire annexe ou parallèle ou extérieur. Il y a beaucoup d'applications, hein, on le voit, à partir même de Descartes, qui fixe d'ailleurs le terme de imaginaire. Voilà. Il dit, on va l'appeler imaginaire, grand René.
Ce qui est intéressant de constater, c'est que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les nombres complexes sont nés dans une situation purement algébrique, où il s'agissait de manipuler des nombres. Et ces nombres étaient un peu miraculeux, un peu manquaient un peu de contenu. Et il a fallu attendre bien plus tard. Il a fallu attendre Wallis, Gauss, qui encore Wessel, Argand. Donc ça nous mène au début du XVIIIe siècle. Il a fallu attendre tout ce moment pour qu'on arrive à comprendre que ces nombres avaient une véritable existence géométrique.
Oui.
Et qu'on pouvait penser à un nombre complexe, non pas comme une espèce de bête un peu bizarre qui a une partie réelle et une partie imaginaire, mais comme un point dans le plan.
Mais est-ce que c'est déjà pas le cas avec Descartes, qui lui est l'initiateur de la géométrie?
Alors, Descartes est l'initiateur de la géométrie, mais Descartes est même lui qui a inventé le mot imaginaire.
Oui.
Mais ça serait aller un peu loin de dire qu'il avait vu les nombres complexes en tant que en tant que point dans le plan.
D'accord.
Et donc il a fallu du temps pour arriver à cette vision géométrique, et peut-être que François nous dira que malheureusement dans l'enseignement secondaire, C'est seulement la première partie historique qui a survécu. On parle aujourd'hui des nombres complexes comme des entités algébriques, on les manipule avec des x, des y.
Et on a
mis un peu à la poubelle le côté géométrique qui est si évocateur et si riche.
Et oui.
Or, tout au long du 19e siècle et même du 20e siècle, le côté géométrique des nombres complexes a été absolument extraordinaire, a infusé dans toutes les mathématiques, bien sûr, mais aussi dans la physique, dans de tas de situations, dans les fluides, les transformées de Fourier.
Oui, sa simplification des transformées de Fourier, paraît-il.
Donc, les nombres complexes ont acquis une véritable existence, en grande partie grâce à leur caractère géométrique.
Oui.
L'un des exemples est l'un des articles merveilleux de Gauss, dans lequel il entame une vision théorique de la cartographie et qui permet de lancer l'idée de surface de Riemann. Enfin, c'est le début de la géométrie algébrique. Bref, je ne vais pas parler longuement de ceci.
Vous m'avez expliqué ça dans le détail, c'est absolument magnifique.
Ce que je veux dire, simplement, c'est que ces nombres complexes, dans leur aspect géométrique, ont une paternité absolument extraordinaire.
Et ça ne sera trahir personne que de dire que Étienne Gys est un amoureux fou de la géométrie et qui surveille
et
le périmètre.
En particulier.
Voilà, surveille le périmètre. Attention.
Je vais peut-être faire une toute petite précision. En fait, dans le côté algébrique, le paradoxe, c'est qu'en fait, ils sont introduits dans les équations algébriques. Et par contre, dans le problème de terminal, on ne parle pas du tout de ce genre de questions, des relations de Wieck entre les coefficients et les racines, par exemple. Tout ça est évacué de l'histoire. Le point de vue algébrique, en fait, est un point de vue peut-être algébro-géométrique, puisque je pense qu'on imagine les nombres complexes pour le futur comme étant un éveil à la notion d'espace vectoriel. Donc, en gros, de mettre une structure sur le plan sur lequel on peut additionner des choses. Bon, on peut faire un peu plus, puisqu'on peut multiplier. Mais on a évacué complètement cet aspect des choses qui avait été introduit par la réforme des modes modernes, puis réévacué. Je pense que les nombres complexes restent dans cette structure algébrique comme étant quelque part un éveil à la géométrie de l'algèbre, vue comme algèbre linéaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les espaces vectoriels. Et pas du tout comme structure algébrique liée à ce que nous, on aime bien, les équations algébriques, les groupes de Galois, etc.
D'accord, vous avez dit Wieck tout à l'heure.
Oui, hein,
donc
François
il s'agit
Wieck.
De François Wieck, grand mathématicien dans l'histoire des mathématiques. Alors, qui poursuit ?
Moi, je vais lire la question et pareil, François va y répondre.
Hein.
Alors, la fameuse restitution organisée de connaissances. Donc, ça veut dire question de cours. Hein. Donc, on suppose connu... Moi, j'aime pas du tout cette phrase. Non, pas du tout. Hein. On suppose connu le fait que pour tout nombre complexe, z égale x plus iy, où x appartient à r, y appartient à r, le conjugué de z est le nombre complexe z bar, défini par z bar égale x moins iy. J'aime pas du tout, parce que c'est pas un fait, c'est une définition. Je trouve que cette phrase est alambiquée, mal fichue. Si j'étais élève en terminale, je comprendrais rien du tout. Démontrer que, il y a donc deux choses à démontrer, pour tout nombre complexe z1, z2, z1, z2 bar égale z1 bar, z2 bar. Et deuxièmement, montrer que pour tout nombre complexe z est tout entier naturel non nul n, on se demande pourquoi il est non nul d'ailleurs, ah si, si, quand même. Zn, z puissance n bar égale z bar puissance n. Ça fait un peu du chinois, tout ça. Hein
oui. Non, puis ça me rappelle aussi, en particulier, un des commentaires de Gilles Gaston-Granger, grand philosophe des sciences, professeur au Collège de France, qui a écrit un livre sur le style en mathématiques, et qui disait que on peut pas, les mathématiques ne sont pas seulement qu'une écriture de symboles, mais qu'il y a des mots, dans la langue vernaculaire, ouais, qui sont au milieu.
Hein. Je dois dire que c'est
donc là, ce que vous me dites, c'est l'exemple même. Hein.
Ce qui m'attriste dans ce genre de prose, c'est que il s'agit d'un langage qui n'a rien à voir avec le langage humain. Quoi. C'est-à-dire, si François explique des maths à ses élèves, il ne parlera pas comme là.
Oui.
Or, pourtant, les élèves doivent, le jour du bac, comprendre une langue étrangère.
On peut le dire autrement. Hein, en gros, la conjugaison complexe, c'est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et ce qu'on demande, c'est la compatibilité de cette symétrie au produit, d'une part, et à l'élévation à la puissance, d'autre part. Voilà, ça peut se dire en deux mots. Reste à savoir comment ça se démontre.
Bien. Alors, qui poursuit ?
Alors, on lit la quatrième oui, ou non, on fait celle-là ?
Non, j'aurais voulu que tu commentes le fait j'aimerais savoir ce que tu nous expliques, ce qu'on attend d'un élève
alors, effectivement,
restitution de connaissances.
Bah, c'est ça qui n'est pas clair. Donc, en fait, le « on suppose connu », c'est le point de départ de la restitution organisée de connaissances. C'est-à-dire que c'est on demande à l'élève de partir de ce point-là. Et ensuite, on est censé démontrer des choses. Alors, les deux choses qui sont à démontrer sont très ambiguës, puisque la première, à savoir que le produit d'un conjugué, déconjugué, c'est le conjugué du produit, eh bien, n'est pas explicitement au programme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est implicite plus ou moins, mais qui n'a en fait qui n'est pas écrit. Et si on comprend l'esprit du programme, en fait, ce n'est pas dans l'esprit du programme. Bon, même si la démonstration se fait en deux lignes, hein, bien entendu, il suffit de développer les deux produits et de constater que quand on remplace le plus par des moins, eh ben ça se passe bien. Et la deuxième chose, c'est de établir une relation pour tout entier naturel non nul. Ça présuppose la notion de récurrence qui est accessible à partir de la terminale, qui est
difficile à passer.
Qui est difficile à passer parce que c'est la première fois qu'on la rencontre et plutôt dans un contexte de suite. On va définir des suites, on va définir au rang 1, au rang 2, etc. Là, c'est une démonstration par récurrence, donc c'est déjà un peu plus compliqué. Et alors, ce qui est en plus dur, c'est que la première chose, c'est que une récurrence, ça se démontre comment, hein? C'est quoi le principe? C'est on démontre qu'une certaine propriété est vraie, par exemple quand la variable vaut 1, quand n vaut 1, et puis on va démontrer l'hérédité, à savoir que si c'est vrai à un certain cran n, eh bien ça va être vrai au cran d'après n plus 1. Et bon, tout le monde est bien d'accord que du coup ça va être vrai pour 1, donc pour 2, donc pour 3, etc. Donc tout le temps.
Et l'itération marche.
L'itération marche bien. Oui. Alors le truc, c'est qu'il y a un petit problème ici, c'est que pour n égale 1, la propriété est évidente, c'est z bar égale z bar, bon voilà. Pour n égale 2, on vient de le démontrer, mais a priori on n'a pas à le démontrer, puisque l'initialisation qu'on appelle une récurrence est pour n égale 1. Par contre, pour démontrer l'hérédité, c'est-à-dire démontrer que quand on l'a vrai au grand n, c'est vrai au grand n plus 1, ben, en fait on a besoin du grand n égale 2. Donc c'est une démonstration par récurrence qui n'est pas excessivement compliquée une fois qu'on en a compris le principe, mais qui en fait, d'un point de vue du sens, la façon dont on va bâtir la démonstration, pose un vrai problème et un véritable obstacle. Bon, une fois qu'on a compris ça, la démonstration se fait toute seule par récurrence, donc c'est vraiment du cours. Mais je pense que la question, la formulation pose problème, et peut-être même le contenu n'est pas facile à mettre en forme en fait.
Est-ce que voilà. Tu as signé la pétition, François ?
Non, je n'ai pas signé la pétition, mais j'ai tenté d'expliquer à un certain nombre de mes collègues qui trouvaient que les gens qui avaient signé cette pétition exagéraient et se moquaient de nous, et que même la France allait bien bas, etc., etc., que le ressenti que pouvaient avoir les élèves de terminale qui ont passé le bac était justifié.
Oui, parce que certains d'entre les professeurs de mathématiques, la phrase c'était ils commencent à nous emmerder un peu. Hein,
c'est ça. C'est alors, il y a une réaction aussi un peu épidémique à la notion de pétition. C'est vrai qu'on fonctionne peut-être pas comme ça, nous, à l'ancienne. Maintenant, le fait que effectivement, il y a un ressenti que de difficultés et de problèmes un peu mal posés, ou en tout cas la limite de ce qu'on peut exiger, ça, je pense qu'il fallait l'entendre. Et je crois qu'effectivement, donc je n'ai pas signé parce que c'est pas mon rôle de signer ce genre de choses, mais je pense qu'effectivement, il y avait une difficulté supplémentaire par rapport aux années précédentes.
Voilà, vous avez écrit d'ailleurs un commentaire là-dessus, sur cet ensemble. Votre sentiment sur ce point, Étienne Gis ?
Très sincèrement, je n'ai pas de sentiment bien précis, puisque je ne suis pas professionnel du secondaire, donc je ne connais pas bien ce qu'on attend d'un enseignement en terminale sur les nombres complexes. Mais c'est vrai qu'on a consulté tout à l'heure les programmes de terminal. À strictement parler, les questions censées être des questions de cours ne le sont pas. C'est pas dans le programme. Maintenant, je pense que l'immense majorité des enseignants ont probablement discuté de ces points dans leur classe. Donc c'était un peu un cas un peu limite.
C'est limite parce que, en fait, c'est ce qu'on a dit en termes d'interprétation tout à l'heure, c'est si le but du jeu en terminale, d'ailleurs c'est explicite dans le programme, n'est juste que d'éveiller au nombre complexe de façon à ce qu'il soit manipulé plus tard, et qu'en fait c'est juste une initiation finalement, bah, il n'est pas clair qu'on ait besoin de faire des choses trop techniques avec ces choses-là. Donc, il n'est pas. Je serai enseignant dans le secondaire et j'aurai, je sais pas, le chapitre de probabilité qui passe mal, bah, j'accentuerai le chapitre de probabilité. Il faut bien se rendre compte que les programmes à l'heure actuelle dans le secondaire sont un peu de plus en plus comme des pâtes de pizza qu'on a voulu étendre de plus en plus pour avoir une surface de plus en plus grande pour couvrir absolument toutes les questions qu'on pourrait se poser. Mais on s'est jamais donné à aucun endroit les moyens d'aller en profondeur comme un pavé drumstick, si vous voulez. Et moi, j'ai une tendance à défendre l'enseignement
de comparaison culinaire.
Mais oui, j'ai une tendance à comparer les choses intéressantes en maths à des pavés drumstick où il faut mordre dedans pour essayer de voir ce qu'il y a dedans, plus qu'à une pizza très fine. Et si j'en crois la surface à couvrir et le temps qu'on a pour faire les nombres complexes, ben je pense qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas fait ça parce que tout simplement ils n'avaient pas le temps, c'était pas prioritaire et c'est pas du tout dans l'esprit du programme. Donc je pense qu'il y a un bon nombre de professeurs qui en fait n'ont pas signé la pétition non plus, hein, parce qu'ils étaient quand ils étaient correcteurs de bac, ils n'allaient pas signer la pétition contre le bac, mais qui ont se sont sentis trahis aussi pour leurs propres élèves. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème.
Trahi pour leurs propres élèves.
Ce que je voudrais ajouter, peut-être en quittant un peu l'examen du bac, que quand on lit ce genre de prose qui est un peu indigeste, quand je vois ce genre de choses, je me dis, mais comment ça se fait que j'aime les maths ? Or, j'aime les maths. Et quand je vois ça, je dis, c'est très ennuyeux ce texte. Comment se fait-il qu'il y a une telle différence entre la manière dont les maths sont rédigées pour nos élèves et les vraies mathématiques, celles que je pratique tous les jours? Comment se fait-il que nous soyons incapables de rédiger des problèmes ou d'expliquer des mathématiques à nos élèves autrement que dans ce genre de prose un peu sèche, quoi?
Oui.
Ça fait penser, il faut que je vous réponde quand même. Je continue à faire des maths, je continue à faire beaucoup de maths même, et je fais même un peu de recherche en maths sur un certain nombre de choses qui m'intéressent. Donc je pense qu'une fois qu'on a commencé à faire des maths et qu'on aime faire des maths, on n'arrête jamais.
Oui.
J'ai changé de métier, c'est-à-dire que la personne qui me paye ne me paye pas pour faire de la recherche, mais moi je continue à faire beaucoup de maths.
Bah, c'est pas étonnant, oui. De toute façon, vous avez commencé, vous avez le virus, et puis en même temps, vous avez. De toute façon, l'un et l'autre, vous faites des maths, et l'un et l'autre, vous avez le goût d'enseigner aussi, quand même.
Bien sûr.
De faire
Reste encore une question.
Oui, il reste une question. Alors, il faut aller vite parce que j'avais quelques petits commentaires. Allez.
Vite.
C'est le point 4.
Point 4 et dernier point. Démontrer que si Z est une solution de l'équation E. Tiens, la revoilà l'équation E. On l'avait pas vue depuis le début. Hein. Elle revient l'équation E. Démontrer que si Z est une solution de l'équation E, alors son conjugué Z bar est également une solution de E. En déduire les solutions dans C de l'équation E. On admettra que l'équation E admet au plus 4 solutions. Donc en clair, on nous dit à la fin qu'une équation du quatrième degré a 4 solutions.
Oui.
On nous dit que si Z est une solution, Z bar en est une autre.
Faut
et puis, on nous demande de montrer que si Z est une solution, Z bar en est une autre. Là, on a fait tout ce qu'il faut pour le démontrer facilement. Et puis, on a 4 solutions. On a A, moins A bar, moins A bar. Voilà, on a 4 solutions. Et monsieur le rédacteur du problème nous dit qu'il y a 4 solutions au plus. On en a 4. On les a donc toutes les 4. A, moins A bar, moins A bar. Voilà la solution.
Oui.
C'est un peu frustrant quand même. Parce que il me semble qu'en rédigeant le problème un peu différemment, on aurait pu ne pas demander à l'élève d'admettre qu'il y a 4 solutions, on aurait pu lui faire découvrir qu'il y avait 4 solutions, et on aurait pu lui demander de trouver les 4 solutions sans passer par ces circonvolutions un peu étonnantes de la question 3, qui me semble un petit peu hors-circuit, quoi.
Alors, j'ai envie de vous poser une question, vraiment, on a très peu de temps pour y répondre, on pourrait discuter longtemps, mais j'ai envie de vous poser une question à l'un et à l'autre, c'est que quand on aborde les nombres complexes, par exemple, quand on aborde cette chose étrange qu'est un nombre imaginaire, ainsi de suite, est-ce qu'on a un petit préalable d'étonnement? Est-ce qu'on a la volonté de dire, tiens, il y a une malice heuristique d'un seul coup? Est-ce que... comment on enrobe? Parce que, spontanément, quand j'arrive difficilement à comprendre quelque chose en mathématiques, je suis, mais alors, dans une admiration.
Je crois que ça dépend
vraiment. Et je vois la beauté partout.
Je crois que ça dépend vraiment des situations et des cas particuliers. Par exemple, je peux vous dire que je me souviens très bien comment moi, j'ai mon premier contact avec les nombres complexes, c'est pas dans un livre de maths. Quand j'avais, je sais plus quel âge, 12 ans ou 13 ans, je voulais être radio-amateur et je voulais fabriquer ma radio.
Ah.
Et j'avais emprunté un livre sur comment fabriquer une radio. Et puis il y avait des nombres complexes, c'est obligé quand on fait d'électricité,
ouais,
des nombres complexes. Et même les électriciens, ils notent pas I, ils notent J.
Oui.
Ils notent J parce qu'il faut pas confondre I comme intensité.
Et donc, ça marche pour le courant continu et discontinu, c'est ça, hein?
Oui, oui. Et donc, il y avait donc dans ce livre, dont je me souviens très très bien quand j'étais gamin, de radio. Il y avait un cours de nombres complexes, mais c'était le minimum syndical pour faire une radio. et voilà, donc mon premier contact avec les nombres complexes, c'est pas du tout comme les équations ou tout ce qu'on vient voir aujourd'hui. C'est vraiment très concret comment on fabrique sa radio amateur à la maison, quoi.
Et vous, François?
Ah bah moi, mon premier contact, c'était en troisième, alors que je cherchais à comprendre des choses qu'on me cachait. Enfin, qu'on trouvait que c'était pas de mon âge, mais c'était plutôt des maths, moi. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je passe un temps élevé à expliquer ce que c'est qu'un nombre complexe, ce que c'est qu'un nombre tout court, et les questions qui se posent autour de ça. Et quand j'ai enseigné ce genre de questions, je peux tout à fait, par exemple, passer 2 heures à parler de ce que c'est qu'un nombre depuis l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours.
Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois infiniment d'être venu jouer à l'exercice sur l'exercice. Merci Étienne Gis, merci François Sauvageau. Donc la semaine back hein, dans toutes les disciplines, c'était en tout cas pour nous Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. J'espère que ça a intéressé ceux qui préparent le bac et les autres aussi bien sûr. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues aujourd'hui à la technique ce Jean Ferrier, Emmanuel Morse-Gundincan pour la documentation Henri Leblanc, à la réalisation Dany Journeau. Stéphane Delis-Georges, Continent Science et balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr à l'émission Continent Science, demain à la même heure et en continuant à préparer le bac. Vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste à vous souhaiter un bel après-midi sur France Culture, oui, un très bel après-midi.